Bac FM, il est 19h et à l'occasion aujourd'hui, en ce 10 octobre, de la Journée mondiale de la santé mentale, je reçois Anne-Laure Rémy, elle est psychologue. Bonjour Anne-Laure Rémy.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne dans un foyer d'accueil médicalisé. On va revenir d'ailleurs sur ce que ça implique d'être psychologue clinicienne, d'autant plus dans un foyer d'accueil médicalisé. Vous me faites l'honneur de répondre à mes questions à l'occasion de cette journée mondiale de la santé mentale.
C'est un plaisir.
Mais oui, merci à vous. Pourquoi elle est importante, cette journée mondiale de la santé mentale? Quel est l'objectif aussi derrière cette journée?
Alors, l'objectif de cette journée, en fait, c'est d'expliquer la différence déjà entre santé mentale et maladie mentale. C'est également de favoriser l'échange autour de la question de la santé mentale et de valoriser les ressources existantes. Et enfin, de promouvoir l'engagement citoyen. Donc, en fait, elle est l'occasion de sensibiliser l'opinion publique aux questions de la santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de la santé. Alors, pourquoi elle est importante, en fait? Être en bonne santé mentale, c'est se sentir bien, c'est effectivement pouvoir travailler, pouvoir étudier, s'accomplir en tant que personne tout en gérant le stress de la vie quotidienne. Et donc même si on sait que voilà, la santé mentale est un droit universel, et on sait qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se sentent seules, qui se sentent isolées et qui n'ont pas les moyens de s'exprimer et d'exprimer leur mal-être.
L'objectif de cette journée, c'est aussi d'inciter les gens à se questionner sur leur propre santé mentale, d'où le thème notamment, d'ailleurs vous l'avez évoqué, de cette journée qui est un droit humain universel, la santé mentale.
Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de central en fait. On a le bien-être, le fait de s'accomplir en tant qu'être humain, c'est très important, mais on vit dans une société qui est stressante. Et les gens n'ont pas forcément les moyens de s'exprimer là-dessus.
Et c'est votre rôle d'ailleurs aussi de parler à ces gens, d'expliquer aussi ce qu'est la santé mentale et comment on influe chacun personnellement sur notre propre santé mentale. On va revenir d'ailleurs sur qu'est-ce qui joue sur notre propre santé mentale. Peut-être que ça varie aussi selon notre personnalité et selon notre vécu. Vous êtes psychologue clinicienne. Ça veut dire quoi être psychologue clinicienne ?
Donc pour faire psychologue clinicienne, on fait un master de psychologie. Donc pour ma part, moi c'est un master de psychologie clinique mention psychothérapie et psychopathologie. Donc je travaille dans un foyer d'accueil médicalisé auprès donc de personnes, d'adultes présentant des handicaps psychiques, physiques, sensoriels. Voilà, c'est souvent des handicaps associés.
C'est-à-dire qu'ils ont je sais pas si je m'exprime bien en disant ça, mais ils ont un handicap en plus d'avoir une instabilité mentale ?
Oui, tout à fait. Oui, ils ont des handicaps sensoriels et physiques.
Comment on s'adapte avec ces personnes-là, avec ces patients-là ? Est-ce qu'il y a une approche différente de la maladie ?
En tout cas, pour ma part, moi, je travaille en créant un lien de confiance avec eux. Je les écoute, en fait, sans les juger. Donc, je les laisse exprimer leurs difficultés, leurs souffrances, mais aussi, du coup, leurs projets, leurs joies. J'essaye de travailler avec eux sur la gestion de leurs émotions, leur estime de soi, donc finalement, comme tout un chacun.
On peut vous qualifier d'accompagnante aussi, au-delà d'être psychologue clinicienne ?
Oui, je les accompagne, oui, tout à fait. J'essaie de les accompagner dans leur vie, en fait, pour qu'ils soient acteurs, en fait, de leur vie.
Ça concerne quoi, la santé mentale, concrètement ? Ça concerne beaucoup de choses, j'imagine. Ça peut aller sur des aspects qui varient aussi, selon le profil de personne ?
Notre santé mentale, en fait, est influencée par des événements internes ou externes, et elle évolue au cours de notre vie. Par exemple, par rapport à la pandémie du Covid, ça, c'est un facteur externe qui a affecté beaucoup de personnes.
Y a notamment aussi... les jeunes, peut-être ?
Non, tout le monde, je dirais. Vraiment tout le monde, et y compris d'ailleurs les personnes, le public pour qui j'ai travaillé, parce qu'ils ne pouvaient plus sortir pendant la pandémie, qui avaient la peur de la maladie, la peur de la mort. Donc vraiment, je pense que ça a impacté tout le monde, et même mes collègues. Enfin, pour nous tous, ça a été compliqué. Donc c'est vrai que ces facteurs externes peuvent faire évoluer la santé mentale. Il y a aussi des facteurs internes, comme les troubles psychiques. Mais Voilà, après, on n'est pas forcé d'avoir des troubles psychiques, finalement, pour avoir une mauvaise santé mentale. Hein, si on vit des événements compliqués dans notre vie, on peut avoir une dégradation de la santé mentale. Ça concerne tout le monde.
Est-ce qu'une mauvaise santé mentale, c'est le plus dur à détecter chez un patient ?
Alors, une mauvaise santé mentale, elle va se manifester, en fait, surtout dans la durée des symptômes et dans leur envahissement dans la vie de la personne. Donc ça peut être des symptômes sensoriels, ça peut être cognitif, ça peut être psychologique, ça peut être comportemental, émotionnel. Enfin voilà, il y a beaucoup de symptômes qui vont faire qu'on peut repérer en fait. Et voilà, mais il faut que la personne arrive à l'exprimer et c'est pas toujours évident.
Qu'est-ce qui influe justement une personne sur une personne, la santé mentale ? Est-ce que ce sont des événements passés, mais au-delà de ça, ça peut être beaucoup d'autres choses ?
Oui, oui, tout à fait. Comme je vous le disais, ça peut vraiment être des facteurs externes, hein, donc des choses qui leur sont arrivées ou qui arrivent, hein, comme on disait là, la pandémie du Covid, hein, ou des événements familiaux, et ça peut être aussi des événements internes, hein, l'apparition de troubles, voilà, la dépression, vraiment, c'est très large.
Je vous ai pas demandé depuis quand vous faisiez ce métier.
Donc je travaille depuis 2011.
Est-ce que depuis 2011, vous avez aperçu que la santé mentale, les symptômes du moins de la santé mentale, les facteurs qui l'amenaient, la mauvaise santé mentale, augmentaient et variaient au fur et à mesure du temps ? Je pense, j'ai quelque chose qui vient en tête là à l'heure actuelle, c'est les réseaux sociaux, le harcèlement sur les réseaux sociaux, notamment chez les jeunes. Est-ce que ce sont des nouveaux facteurs de mauvaise santé mentale ?
Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose d'important et effectivement, malheureusement, qui se développe beaucoup parce que les réseaux sociaux peuvent amener du bien comme du mal. Et c'est vrai que dans le cas du harcèlement, les jeunes qui se font harceler n'ont plus de limite en fait. Hein. Avant, il y avait la limite de la maison où ils pouvaient encore se ressourcer, mais là, c'est vraiment voilà, il y a plus de limite dans les réseaux sociaux. C'est très envahissant et les gens ont peut-être aussi moins de limites eux-mêmes à harceler parce qu'ils sont derrière leurs écrans et qu'ils ne se rendent pas compte en fait du mal qu'ils peuvent faire.
Ce qui est intéressant aussi dans ce débat-là, c'est que parfois les harceleurs sont eux-mêmes d'ailleurs déjà victimes de mauvaise santé mentale finalement et c'est pour cela qu'ils harcèlent et qu'ils amènent une mauvaise santé mentale sur les personnes harcelées. C'est un petit peu le chien qui se mord la queue.
Mais tout à fait, c'est pour ça que les personnes qui ressentent un mal-être, c'est pour ça que c'est si important en fait qu'ils aillent voir quelqu'un, qu'ils s'expriment, parce que quand on ne s'aime pas soi-même, c'est compliqué d'aimer les autres, et c'est alors que peut apparaître des comportements de harcèlement, effectivement.
Est-ce que vous avez une fourchette d'âge de patients qui s'inquiètent plus que d'autres sur justement leur santé mentale ou pas spécialement ?
Non, je dirais juste que voilà, au fil des âges, moi mes patients sont déjà entre 20 et 60 ans. Et voilà, peut-être que les problématiques sont différentes. Effectivement, c'est peut-être pas les mêmes problématiques qui sont évoquées, exprimées, mais voilà, comme je disais, au fil du temps, la santé mentale évolue de toute façon.
Pour aller sur les deux extrêmes, quelles sont les problématiques pour une personne type de 20 ans comparée à une personne type 60 ans, 70 ans par exemple ?
Alors, ce serait compliqué parce que c'est des personnes qui ont des handicaps. Hein, des handicaps.
Ouais, pour votre cas, oui.
Voilà, mais après, non, vraiment, ça peut être des choses qui touchent tout le monde. Après, voilà, il y a la problématique du deuil hein, qui apparaît quand les personnes vieillissent, forcément, qui vont perdre des proches. Donc, je sais que j'organise des ateliers avec mes collègues sur le deuil pour pouvoir justement travailler ça avec les résidents, que ce soit par la parole ou par la médiation, par exemple. Après, je travaille aussi sur l'affectivité et la sexualité. C'est également ça à tout âge hein, pour les résidents. Donc je fais un groupe de travail avec mes collègues et voilà, et du coup on travaille ensemble sur des problématiques que peuvent vivre les résidents et puis je fais des ateliers aussi pour faire de la prévention, dernièrement j'ai parlé du consentement, donc voilà, et ça intéresse vraiment tous les types d'âge, hein, je remarque.
Pour parler plus globalement de la santé mentale à travers plusieurs professionnels, dans une ère où la parole elle se libère, où on a moins honte d'exprimer nos problèmes personnels, est-ce que plus de personnes se tournent justement vers des psychologues ?
J'ai l'impression que oui. Alors moi, comme c'est un milieu fermé, je travaille en institution, je sais que le plus important, c'est d'arriver à créer un lien de confiance avec la personne. Parce que c'est compliqué d'aller voir un psychologue, même sans parler de honte. C'est vrai qu'il faut déjà franchir cette étape de se dire « je ne vais pas bien et je vais et voilà, je parle à quelqu'un ». Mais c'est aussi de parler à quelqu'un qu'on connaît pas, se livrer à quelqu'un qu'on connaît pas. Et donc voilà, c'est vraiment arriver à créer un lien de confiance avec quelqu'un, mais je le conseille vraiment aux gens qui ressentent un mal-être voilà, qui dure et qui les fait souffrir, c'est de passer le pas et d'aller voir un psychologue. C'est son rôle de mettre à l'aise la personne, et si ça marche pas avec ce psychologue, ne pas hésiter à en rencontrer un autre, parce que c'est très important de pouvoir exprimer ce qu'on ressent et voilà, exprimer ses difficultés.
C'est l'aspect le plus compliqué de votre métier, c'est de commencer à faire parler des personnes alors que leur but premier, justement, c'est de venir vous parler.
Bah justement, moi, je respecte toujours la demande des patients qui viennent me voir. Donc, c'est vraiment, moi, les écouter sans les juger et voilà, et créer ce lien de confiance, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, qui va permettre à la personne d'évoluer, de changer quelque chose qui l'a fait souffrir.
Avec l'évolution de beaucoup de choses de la vie, même en général sur plein d'aspects, que ce soit économique, que ce soit familial et que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., tout ce qu'on a évoqué déjà avant dans cet entretien, est-ce que la santé mentale va être amenée à être de plus en plus préservée ?
Bah, j'espère, ce serait bien que ça aille dans ce sens, mais voilà, on sait qu'aujourd'hui, qu'une personne sur quatre dans le monde a des problèmes de santé mentale, et on sait aussi que c'est compliqué, hein. Le monde médico-social est en difficulté. Hein. Après la pandémie du Covid, c'est compliqué. Beaucoup de soignants n'en peuvent plus. Donc c'est vrai que pour trouver un équilibre, il va falloir travailler, je pense.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui nous écoute, qui se doute ou qui sait qu'il souffre d'une mauvaise santé mentale et qui n'ose pas venir parler à un psychologue ou une psychologue ? Qu'est-ce que vous lui diriez ?
Bah, je lui conseillerais de franchir ce pas qui est difficile, mais qui peut vraiment lui apporter beaucoup. Parce que de parler et d'exprimer ce qu'on ressent, même si ça paraît quelque chose de banal, c'est quelque chose de plus dur qu'on le croit. Je dirais aussi l'importance d'être bien entouré, et par là je veux dire être entouré de gens bien, en fait, hein, qui nous veulent du bien, et de privilégier les petits bonheurs qui nous font du bien, je dirais. Voilà, la méditation, faire du sport régulièrement, lire, voilà, faire des choses qui nous font du bien en fait tous les jours. Je pense que ça préserve aussi notre santé mentale et c'est très important.
Je voudrais terminer avec cette question, Anne-Laure. Une mauvaise santé mentale, on en guérit ou simplement on l'améliore ? Est-ce que c'est possible d'en guérir ?
Alors, un trouble mental et une mauvaise santé mentale, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, donc, il y a certains troubles mentaux qui peuvent se soigner, d'autres qui vont peut-être être un peu plus durs, mais qu'on pourra améliorer, on pourra apprendre à vivre avec et on pourra nettement baisser les symptômes. Quoi qu'il en soit, vraiment, quand on se sent en difficulté et qu'on voit qu'on a des symptômes qui font souffrir ou qu'on se sent en mauvaise santé mentale comme en mauvaise santé physique, le réflexe, il faut vraiment ne pas hésiter à aller voir quelqu'un, aller consulter quelqu'un, à demander de l'aide.
Et se tourner vers des professionnels dont vous faites partie. Merci beaucoup, Anne-Laure Rémy. Merci d'avoir répondu à mes questions à l'occasion de cette journée mondiale de la santé mentale. Merci à vous.
Merci à vous.
Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop rock. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à 10h30 avec Laetitia pour votre rendez-vous cinéma. Action demain à 10h30. Bonne soirée.